L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, pardon de cette voix d'outre-sinus, et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité internationale, puisque jour d'élection, jour sans commentaire de l'actualité nationale. Donc nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité internationale, et nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, directeur des publications de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser à la crise autour de la Corée du Nord. Les tensions entre ce pays et les États-Unis se sont accentuées ces dernières semaines. Le 6 mars et le 5 avril, alors que le président américain rencontrait son homologue chinois, plusieurs tirs balistiques nord-coréens ont visé la mer du Japon pour permettre à l'armée du Nord de s'entraîner à frapper les bases des forces impérialistes américaines, selon le communiqué officiel. Alors que ces attaques ont conduit les États-Unis à mettre en garde le régime contre toute nouvelle provocation, Pyongyang a organisé le 15 avril la démonstration de force annuelle du régime, au cours de laquelle de nouveaux missiles ont été présentés, dont certains de longue portée. L'annonce d'un nouvel essai balistique au lendemain de la parade par le leader Kim Jong-un et la probabilité d'un sixième essai nucléaire ont suscité une réaction immédiate des États-Unis, qui ont intensifié les manœuvres militaires dans la péninsule. Les déclarations belliqueuses n'ont cessé de se multiplier. Alors que Pyongyang s'est déclaré prêt à utiliser la force nucléaire, le vice-président Mike Pence a promis, je cite, « une réponse écrasante par armes conventionnelles ou nucléaires en cas d'attaque ». En déplacement au Japon, le même Mike Pence a insisté sur l'alliance entre les deux pays, pierre angulaire de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-Est, a-t-il rappelé. Le 9 mai, les élections anticipées en Corée du Sud, après la destitution de Park Geun-hye, se tiendront dans un contexte particulièrement tendu, alors que les deux candidats favoris s'opposent à l'usage de la manière forte contre la Corée du Nord. Lundi, les États-Unis ont annoncé la mise en service du bouclier antimissile Terminal High Altitude Area Defense sur le territoire sud-coréen. La Chine a quant à elle exigé mardi l'arrêt d'un dispositif qui menacerait une partie de son territoire et entraverait sa propre force de dissuasion. Allié de poids du régime nord-coréen dans la région, Pékin entend jouer un rôle de médiateur et appelle au dialogue afin d'éviter le chaos dans la région, alors que Washington a récemment annoncé que le problème nord-coréen serait traité avec ou sans son aide. Le 24 avril, Donald Trump a réclamé aux États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de nouvelles sanctions plus fortes contre le régime, et il a appelé la Chine à faire pression sur la Corée du Nord, alors que les relations entre les deux alliés se sont déjà nettement détériorées. Contre toute attente, dans un entretien accordé à Bloomberg News lundi, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen, je cite, « si les conditions étaient réunies ». Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Mon Dieu, c'est un cas bien particulier que celui de la Corée du Nord. La Corée du Nord en elle-même est un cas à part, puisque c'est le pays le plus fermé du monde, à peu près. C'est un pays de 26 millions d'habitants, d'une grande pauvreté, et qui vit dans un état de quasi-autarcie, puisque son commerce extérieur n'est qu'une part relativement faible de son produit national brut. C'est un pays surarmé qui a à peu près 1,5 million d'hommes sous les armes, à peu près 1 million dans l'armée active et 500 000 dans la réserve, ce qui est considérable par rapport à sa population. C'est une dictature de type vraiment stalinien. C'est une survivance, en quelque sorte, d'une époque qui est partout ailleurs à peu près révolue et qui présente en plus cette particularité d'être une dynastie, puisqu'on est dictateur de père en fils et qu'on en est présentement à la troisième génération avec le jeune Kim Jong-un, dont M. Trump vient de déclarer que c'était un jeune homme bien intéressant et qui avait certainement montré quelques grandes capacités puisqu'il avait liquidé à peu près 150 personnes. Il n'a pas dit ça comme ça, mais enfin c'était vraiment cela que ça voulait dire, et que c'était un tough cookie. Kaki, comme il a dit dans son langage très particulier, c'est-à-dire un dur à cuire. Donc un pays extraordinairement particulier et un régime très très difficile à analyser, très opaque selon les traditionnelles règles de la kremlinologie. Je sais que les Américains, lorsque je leur en parlais régulièrement, disaient « il faut que vous abandonniez toutes vos grilles d'analyse pour parler de la Corée du Nord. Ce n'est pas un pays comme un autre, ce n'est pas un régime comme un autre. Oubliez ces grilles d'analyse-là et prenez les grilles d'analyse des sectes. C'est une secte qui est en réalité au pouvoir et qui se gouverne de père en fils. » Alors, ceci étant dit, la Corée du Nord est un problème chronique qui est en train de devenir une crise aiguë. C'est un problème chronique parce que c'est un pays qui n'a pas véritablement d'alliance. Il est soutenu par la Chine et par la Russie, mais d'une façon très particulière, nous y reviendrons certainement. Il est en conflit permanent avec la Corée du Sud, puisque la guerre de Corée s'est terminée en 1953 par un armistice, mais qu'il n'y a jamais eu de traité de paix, et que c'est une espèce de paix armée, de part et d'autre du 38e parallèle, avec des périodes... enfin, périodiquement, des retours de flamme, si vous voulez. Et surtout parce que la Corée du Nord a décidé depuis déjà à peu près 3 décennies de se doter d'un programme nucléaire et d'un programme balistique qui lui paraissent être les conditions de sa survie. Et que, bien entendu, les autres pays nucléaires, les autres grandes puissances nucléaires et balistiques veulent empêcher la Corée du Nord de devenir un danger. Alors, voilà, si vous voulez, l'histoire de la prolifération en Corée du Nord depuis une 30aine d'années a eu des hauts et des bas, je ne veux pas la retracer ici, ce n'est pas le lieu de le faire, mais disons que pour empêcher la Corée du Nord de devenir une puissance militaire, une puissance nucléaire et balistique opérationnelle, on a à peu près tout essayé jusqu'à présent. On a essayé ce qu'on appelle en américain l'engagement, une politique d'engagement, c'est-à-dire une politique constructive consistant à demander à la Corée du Nord de geler son programme en échange d'une coopération économique et de fournitures, notamment d'énergie. C'était la période des années 90, de ce qu'on a appelé l'Agreed Framework, le cadre agréé de coopération avec une institution qu'on avait créée qui s'appelait la KEDO et dans laquelle, en échange du gel du programme nucléaire de la Corée du Nord, on lui fournissait du pétrole et des produits alimentaires, car c'est un pays qui est périodiquement sujet à de très graves famines. Il y a eu une très grave famine dans les années 90 qui a tué à peu près 1,5 million de Nord-Coréens, d'après ce que l'on croit savoir, et c'est à ce moment-là que la Corée s'est ouverte à cet accord. L'accord n'a pas duré, il a été dénoncé lorsque la Corée du Nord a décidé qu'elle était prête à faire des essais nucléaires, elle a dénoncé le traité de non-prolifération dont elle était signataire, elle a mis à la porte les inspecteurs de l'AIEA, et elle a procédé en 2006 à un premier essai nucléaire qui a été suivi en 2009 par un autre essai nucléaire souterrain. Elle en a fait 5 depuis, et comme vous l'avez dit dans votre introduction, Philippe, on considère comme à peu près imminent un 6e essai nucléaire nord-coréen. En même temps, elle continue de procéder à des essais balistiques assez régulièrement de fusées de diverses portées. Alors, cette approche ayant échoué, on est passé à une approche de sanctions, de durcissement, pendant l'époque du président Bush, de l'administration Bush, et puis après, sous Obama, à une période qu'on a qualifiée la patience stratégique, c'est le nom officiel qu'on lui donne, qui consistait à surveiller très attentivement la Corée du Nord, à la maintenir sous sanction, à la maintenir sous menace éventuelle de, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il est clair que la patience stratégique est terminée et Obama, dans une espèce de testament qu'il a laissé à Trump quand celui-ci a pris ses fonctions à la Maison-Blanche, lui a dit que la Corée devenait un danger très pressant, que la patience stratégique n'avait plus cours et que s'il y avait un danger stratégique qui menaçait les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'était bien celui d'une Corée du Nord dotée d'une arme nucléaire et d'une capacité balistique lui permettant de frapper les États-Unis. Et aujourd'hui, les essais auxquels procède la Corée consistent à miniaturiser sa bombe nucléaire, puisqu'elle dispose déjà, pense-t-on, d'une douzaine de bombes existantes, mais elle s'efforce de la miniaturiser pour la faire porter par un missile à longue portée qui pourrait frapper les États-Unis d'Amérique. Nous sommes donc avec un danger pressant.
Michael Avigan. Oui, alors la grille d'analyse en Allemagne était pendant très longtemps marquée par une sorte de parallélité. La Corée, un pays divisé comme le fut l'Allemagne, avec bien sûr toutes les différences qu'on vient d'entendre dans la particularité de ce clan familial qui est au pouvoir, mais quand même une conscience aiguë, je dirais, sur cette division artificielle des familles qui se sont pas vues depuis des décennies, même s'il y a eu dans cette phase je connais plus le mot, d'engagement. Des échanges qui ont été organisés un peu sur le modèle d'ailleurs de ce qui se passait à l'époque entre l'ancien RDA et la RFA, moyennant bien sûr de l'argent venant de la Corée du Sud. Et on a eu, juste comme dernier point aussi, ça vient d'être dit, la fin de la guerre de Corée en 53, et en 53, le 17 juin 53, qui fut d'ailleurs pendant des longues années en RFA, notre jour de, pas de fête nationale, mais notre jour qui a été remplacé depuis par le 3 octobre. Mais un souvenir aussi de ce soulèvement qui se passa à peu près au même moment en RDA et qui voulait dire en défier en quelque sorte la puissance tutelle. Alors, depuis... la réunification, effectivement, les grilles d'analyse ont pas mal changé, mais il ne reste que l'idée sous-entendue que forcément cet état de fait, cette division était quelque chose de pas naturel, domine quand même encore l'esprit. Je crois que c'est pour ça cette démarche diplomatique internationale de ne pas vouloir accepter que la Corée du Nord se dote de l'arme nucléaire qui, quand même, vu, et je pense que c'est ça le point essentiel, non pas comme une menace immédiate d'une guerre nucléaire sur la péninsule coréenne, mais comme un garant de survie de ce régime et donc comme un perpétuaire éternel de cette division. Et j'ai l'impression que la gestion, pour l'instant assez erratique, du président américain de cette crise, entre dire je suis prêt à rencontrer le jeune dirigeant de la Corée du Nord, j'aimerais bien manger un hamburger avec lui, je crois que c'est ce qu'il a dit dans son langage un peu bizarre, et ces menaces quasiment pas voilées. Cet envoi du porte-avions qui finalement, enfin c'était toute une symbolique où on jouait un petit peu avec la puissance militaire américaine et en testant un peu les réactions. Tout ça, j'ai l'impression, c'est aussi une façon de redéfinir la relation avec la Chine qui quand même... le pays sans lequel la Corée du Nord ne n'aurait pas pu subsister tous ces années, parce que il y avait toujours une tolérance et un soutien plus ou moins caché de la part de la Chine. Donc je crois que ce serait intéressant comment la gestion de cette crise fait évoluer aussi le rapport de force entre les États-Unis et la Chine.
Marc-Olivier Padis.
Je voudrais d'abord revenir sur la nature du régime dont François a parlé, c'est-à-dire parce que ce programme nucléaire est indissociable en fait de la stratégie du régime et par conséquent de sa nature profonde, puisqu'il s'est lancé dans ce programme avec l'idée que sa survie et même sa légitimité dépendent de ce programme. C'est pour ça que les pressions sont si difficiles et que, disons, la diplomatie internationale a tant de mal à faire renoncer les Nord-Coréens. C'est c'est que c'est l'enjeu, c'est la survie du régime. Et ce régime n'a pas d'autre objectif, en réalité, que de simplement survivre, poursuivre son emprise sur ce pays. L'objectif du régime n'est pas le développement de l'économie, n'est pas le bien-être de la population. Et on est réduit à faire un peu quelques hypothèses, puisque, comme l'a dit François, c'est un régime qui est particulièrement opaque. Comme on l'a vu au moment de l'histoire de l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un, où on n'a absolument en fait aucune idée des tenants et des aboutissants de cette affaire. Alors, pour comprendre ce régime, il faut savoir que justement cette pénurie qui caractérise l'économie nord-coréenne n'est pas simplement un fait économique, c'est aussi une arme politique, c'est une arme pour discipliner la population, parce que l'économie de rationnement qui est mise en place permet d'organiser la société par cercle convergent autour du pouvoir en fonction de l'accès que la population a à des biens de première nécessité. Et plus vous êtes loin du pouvoir, moins vous avez accès aux biens fondamentaux. Et plus vous vous rapprochez du pouvoir, plus votre situation économique est relativement favorable. Comme l'a rappelé François, il y a eu encore une famine assez terrible dans les années 90. Donc on est dans un régime très concentrique où le pouvoir tient la population et disons l'adhésion au régime par les besoins économiques, et puis un régime de surveillance généralisée. Le deuxième point, c'est que cette affaire met en valeur la question de la stratégie personnelle de Donald Trump, qui est arrivé au pouvoir avec un certain nombre d'idées rudimentaires, et en termes de stratégie, ce qu'il a livré de ses intentions, c'est de dire il faut être imprévisible. Alors là, c'est un bon test, à savoir est-ce que le fait d'être imprévisible permet de faire avancer un dossier comme celui-là. Tout de suite, ça a provoqué une inquiétude phénoménale dans les deux grands pays alliés des États-Unis dans la région, à savoir la Corée et le Japon, qui ont dit, attention, nous, enfin la Corée du Sud et le Japon, qui ont dit, nous, on ne veut pas d'actes inconsidérés, de bombardements, parce que, évidemment, c'est eux qui sont en première ligne en cas de réplique nord-coréenne. Il faut rappeler que dans la géographie de la Corée, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est assez au nord, en fait, de la partie, et donc pas très loin de la frontière.
40 kilomètres.
40 kilomètres de la frontière nord-coréenne, alors que les États-Unis, pour le moment, sont hors d'atteinte, puisque la Corée, comme l'a dit François, n'a pas encore, ne dispose pas de missiles de longue portée capables de porter une bombe nucléaire. Donc, cette stratégie de Trump a tout de suite suscité de l'inquiétude, mais comme sur les autres dossiers, Trump a déjà beaucoup évolué, on peut penser que aussi il s'adaptera à des comportements un peu plus rationnels dans la région. Et puis le troisième sujet qui est important, comme l'a dit Michaela, c'est la relation entre États-Unis et Chine. C'est-à-dire que la question, c'est qui est le patron dans la région ? Qui garantit la paix et la stabilité ? Les États-Unis ont une alliance très forte avec le Japon et la Corée du Sud. Mais d'un point de vue économique, évidemment, la Chine s'est imposée comme la grande puissance. Par exemple, pour la Corée du Sud, les États-Unis ne sont plus le premier partenaire commercial. Dans la décennie 2000, on a commencé la décennie 2000 où les exportations coréennes allaient à 19% vers les États-Unis, c'est plus que 10% maintenant. Et pendant le même temps, les exportations vers la Chine ont monté à 25%, les exportations donc sud-coréennes. Donc c'est dire que pour la Corée du Sud, le grand partenaire économique, c'est maintenant la Chine. Et le grand partenaire militaire, c'est les États-Unis. Donc la Corée du Sud doit trouver un accord. Et puis la Chine a à cœur de montrer que c'est elle la puissance qui stabilise localement. Il n'est pas question pour elle de laisser simplement les États-Unis garantir la sécurité. Et donc la Chine a monté le ton ces derniers jours vis-à-vis de la Corée du Nord à propos précisément de la perspective d'un sixième essai nucléaire pour montrer son autorité dans la région.
Oui, après avoir menacé Kim Jong-un d'un bombardement, Donald Trump l'a menacé d'un hamburger, c'est une désescalade. Nicole Nisotto.
Oui, je crois que la Corée du Nord, c'est l'exemple même d'une impasse stratégique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution au problème de la Corée du Nord, et pourtant, il y a un risque de guerre réelle. Et c'est ça, je crois, qu'il faut essayer de dénouer. Premièrement, sur l'impasse stratégique, le vrai problème de la Corée du Nord, c'est bien sûr le fait que ce soit un régime dictatorial atroce, esclavagiste, d'un clan qui se maintient au pouvoir par tous les moyens en sa possession, mais le vrai, il y a d'autres dictatures dans le monde, l'Érythrée, le Sud-Soudan, qui n'amènent pas les États-Unis et la communauté internationale à une telle émotion. Le vrai problème de la Corée du Nord, c'est que c'est un pays proliférateur, que l'arme nucléaire existe dans la panoplie militaire de la Corée depuis 2006, qu'ils ont fait 5 essais depuis, dont 2 l'année dernière en 2016, et qu'il y a une possibilité de missiles intercontinentaux qui pourraient toucher directement les États-Unis. Donc c'est un pur problème stratégique. C'est un problème de réel politique. Et comme la Corée du Nord est un État nucléaire de facto, sinon de jure, eh bien, toute attaque contre la Corée du Nord est impossible parce que pour Kim, l'arme nucléaire, c'est pas simplement une arme de dissuasion, c'est aussi une arme de sanctuarisation. Et on voit bien que toutes les options qui ont été essayées jusqu'ici ne peuvent pas aboutir. L'option de la dénucléarisation par la négociation, c'est absurde parce que jamais Kim va accepter de couper la branche sur laquelle il est assis. L'option de la dénucléarisation par attaque préventive sur les centres de pouvoir nord-coréens est éminemment risqué, puisqu'on sait, il le dit, qu'il n'hésiterait pas à répliquer, y compris par des armes tactiques, sur la Corée du Sud. Or, les Américains ont 25 000 soldats en Corée du Sud, 50 000 au Japon, il y a 200 000 citoyens américains qui vivent en Corée du Sud, donc la frappe préemptive est quand même extrêmement dangereuse. Et l'option par la pression, les sanctions, la pression diplomatique, elle n'aboutira jamais à la dénucléarisation, d'autant que la Chine est dans une situation de billard à trois bandes, puisque la Chine, la politique de la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord, c'est ni guerre ni chaos. C'est-à-dire, elle ne veut pas que le régime s'effondre. Certainement pas. Pourquoi ? Parce que, in fine, ce serait une réunification de la Corée, une grande Corée démocratique, à l'image de la Corée du Sud, et peut-être nucléaire, et ça c'est l'horreur absolue pour la Chine, donc elle ne veut pas que le régime s'effondre, mais elle ne veut pas non plus que le régime fasse trop de gesticulations anti-américaines pour ne pas que l'Amérique en trouve prétexte pour se réinstaller comme une puissance asiatique. Donc, dans tous les cas de figure, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de solution au problème de la Corée du Nord, sauf de maintenir ce statu quo dont les Chinois sont les garants. En même temps, le risque de guerre est énorme, je rappelle quand même que depuis quelques mois, les ingrédients d'une guerre, si je puis dire par inadvertance, comme on dit parfois, sont là. Premièrement, il y a 6 puissances nucléaires dans la région, il ne faut pas l'oublier, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis et la Corée du Nord, donc c'est une concentration d'armes nucléaires très impressionnante. Le nucléaire nord-coréen est une arme, pour reprendre l'expression de Pascal Boniface, du fou au fou. C'est pas une arme du faible contre le fort, c'est une arme du fou au fou. On est confronté à l'imprévisibilité radicale, non seulement du dirigeant nord-coréen, mais de Donald Trump. Et donc, on ne peut pas exclure une gesticulation qui, de facto, sans qu'il y ait une stratégie au départ, emmènerait à un enclenchement des hostilités dans la région. C'est pour ça que je crois que la Chine, ici, est peut-être le garant de la stabilité en Asie.
François Bujon de l'Étang.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse présentée par Nicole d'une impasse stratégique. C'est effectivement une impasse stratégique complète, parce que les objectifs des principaux protagonistes sont complètement inconciliables, évidemment. Les États-Unis ne veulent pas que leur territoire soit exposé à une menace nucléaire et balistique nord-coréenne. C'est tout à fait élémentaire, c'est la moindre chose. Et non seulement leur territoire, mais leur territoire avancé, c'est-à-dire les troupes américaines en Corée du Sud ou les intérêts américains dans la région. Et la Corée du Nord, de son côté, ne renoncera pas, ça c'est une certitude, à son effort de prolifération balistique et nucléaire, parce que, tout le monde l'a dit ici, autour de cette table, c'est une question de survie, de sanctuarisation. Et ça c'est une chose que M. Kim Jong-un a fort bien comprise, n'est-ce pas ? Il a d'ailleurs fait récemment un discours, alors je ne sais plus à quelle occasion, il y a toujours des commémorations du grand-père, de la naissance du grand-père, du baptême du fils, de je ne sais quoi. Il a fait un de ces grands discours qu'ensuite on oblige les cadres du Parti partie à apprendre par cœur et les gens dans les écoles à apprendre par cœur, parce que c'est ça la Corée du Nord, dans lequel il a non seulement dit qu'il était essentiel de se doter de ce programme nucléaire pour assurer la survie du pays, mais il a dénoncé l'erreur qu'avait commise un certain nombre de dirigeants d'autres pays qui avaient renoncé à leur armement nucléaire. Il a cité nommément le colonel Gaddafi, il a cité Saddam Hussein en disant quelle folie ils ont commise de renoncer à leur armement nucléaire qui est leur seule protection, leur seule garantie de survie. Jamais nous ne ferons une chose pareille. Donc ceci m'amène à quelques variations sur le thème de l'imprévisibilité. Car on dit toujours imprévisibilité, dissuasion du fou au fou, dit Pascal Boniface. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette attitude. Ce n'est pas un fou. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Et en réalité, l'imprévisibilité, ah ouais, du côté de Donald Trump, parce que lui, on sait qu'il est capable de changer d'avis, de se déjuger en 8 jours de temps, de tenter une chose puis son contraire, et c'est ce qu'il est en train de faire sur la Corée du Nord. Mais il n'y a pas d'imprévisibilité du côté de Kim Jong-un. Il est parfaitement prévisible, il va de l'avant. Il va se doter d'une capacité balistique. Il échoue pour l'instant dans ses tirs balistiques, on les a vus. Mais il n'envoie pas pour autant au goulag les ingénieurs qui ont échoué dans leur essai. Là, il a compris. C'est pas comme les joueurs de football qui ont échoué à la Coupe du Monde. Ils les gardent, car ils apprennent de leurs erreurs. Et qu'en réalité, la plupart des experts américains, notamment, considèrent qu'à travers leurs essais ratés, ils progressent et ils continuent de progresser. Donc, il est prévisible en ce sens. Là où il ne l'est peut-être pas, c'est de savoir jusqu'où il est prêt à pousser le risque. Alors, c'est le grand problème des Américains. Que peuvent-ils faire? Les options ne sont pas faciles. Ils ont déjà essayé le dialogue, bien avant que M. Trump ne propose un hamburger à Kim Jong-un. Il y a eu d'autres tentatives. On a oublié, en 2009, les Américains, par exemple, avaient emprisonné les Nord-Coréens avaient emprisonné 2 journalistes américains, et l'ex-président Clinton s'est rendu à Pyongyang, obtenu leur libération et les a ramenés. Il y a eu un début, une amorce de discussion. D'autres émissaires américains, comme l'ancien ambassadeur à Séoul, Steve Bosworth, se sont rendus en Corée du Nord et ont tenté de nouer un dialogue. Il y a eu d'autres tentatives dans des capitales de pays tiers entre Nord-Coréens et Américains. Les Nord-Coréens n'ont jamais donné suite, en réalité. Ils n'ont jamais voulu se laisser entraîner sur cette voie. Aujourd'hui, Trump essaye tout ce qu'il peut. Il envoie un groupe de porte-avions, il menace d'une frappe, il envoie M. Mike Pence, le vice-président, sur le 38e parallèle, il envoie Rex Tillerson, le secrétaire d'État, à Séoul et à Tokyo et à Pékin, et lui-même essaye le dialogue. Il donne l'impression, me disait un expert avec qui je parlais il y a très peu de temps de ce sujet, de jouer de la carotte et du bâton, mais d'allonger en quelque sorte les deux bâtons, celui qui est destiné à frapper, mais celui qui tend la carotte aussi, parce qu'il essaye tout. Et il compte sur la Chine. Alors, un mot sur la Chine, parce qu'elle est au centre de ce jeu. La Chine, Nicole l'a très bien dit, est partagée entre des objectifs tout à fait contradictoires. Elle ne voit pas du tout d'un œil favorable l'idée d'une Corée du Nord nucléaire, et surtout, qui risque de déclencher une course aux armements en donnant des idées au Japon et à la Corée du Sud. Ça ne lui plaît pas du tout, et elle voudrait empêcher cela. Mais en même temps, elle ne veut surtout pas d'un effondrement du régime, et elle ne veut pas évidemment d'une avancée de la Corée du Sud et des bases militaires américaines sur ses frontières. En réalité, la Chine n'a pas tellement de moyens d'action sur la Corée du Nord. Et c'est ce que M. Trump est en train de découvrir. Il a tenté la conciliation avec Xi Jinping à Mar-a-Lago, et apparemment ça se passe pas trop mal. Mais les Chinois peuvent jouer des sanctions de temps en temps. Ils arrêtent par exemple leurs achats de charbon nord-coréen. Ils l'ont fait récemment. Ils ont bloqué des bateaux dans les ports. Alors ils sont formidables, ils le font à la façon chinoise. C'est-à-dire qu'ils n'annoncent pas, ils ne font pas un communiqué, mais un beau jour, on ne sait pas pourquoi, les bateaux nord-coréens n'ont plus le droit de décharger leur cargaison de charbon dans les ports chinois. Ça, c'est la méthode chinoise. Ils pourraient, par exemple, cesser les exportations de produits pétroliers vers la Corée du Nord pour asphyxier l'économie nord-coréenne. Ils ne l'ont pas encore fait, cela. Ils l'ont fait timidement une fois ou deux, là aussi, sans préavis. Il y a la possibilité de sanctions financières aussi, que les États-Unis vont sans doute essayer. Ils vont s'efforcer, surtout s'il y a un 6e essai nucléaire, de durcir les sanctions et de les faire porter sur les flux financiers en pénalisant peut-être les banques chinoises qui chercheront à tricher avec les sanctions. Ça fait partie de la gamme de choses. Mais la vérité, c'est que la Chine ne parle pas véritablement au gouvernement nord-coréen. Jamais M. Xi Jinping n'a rencontré M. Kim Jong-un, par exemple, qui ne voyage guère en dehors de ses frontières, qui ne voyage qu'en train blindé, d'ailleurs, car il ne prend jamais l'avion, non plus que son père, qui se rendait lui aussi en Union soviétique en train blindé. Mais il n'y a pas de véritable dialogue à haut niveau entre la Chine et la Corée du Nord. Et le personnage coréen le plus important qui était le point de contact avec la Chine était le fameux oncle de Kim Jong-un que celui-ci a fait assassiner au canon anti-aérien, s'il vous plaît.
Je voulais juste revenir sur la comparaison qui est faite assez souvent entre les deux Corées et les deux Allemagnes. Je crois que c'est une comparaison qui est totalement fausse et qui ne permet pas de comprendre. Ce qui se passe en Corée est encore une fois un problème de realpolitik. Il n'y a aucune dimension idéologique de lutte entre les démocraties et le totalitarisme, pour une raison simple, c'est que si la Corée du Nord est un régime totalitaire, la Corée du Sud n'est pas l'exemple de la démocratie idéale. C'est un pays hyper corrompu, etc. Et donc, il n'y a pas cette dimension idéologique qu'il y avait entre les deux Allemagnes. Et surtout, deuxième raison, personne ne souhaite la réunification de la Corée du Sud. Ça n'est pas l'objectif ni des politiques occidentales, ni de la Corée du Sud, alors que l'objectif d'une réunification de l'Allemagne était le non-dit de la détente pendant toute la guerre froide. Donc ça n'a vraiment pas rien à voir.
Je vous remercie. Je m'aperçois que dans les brumes du rhume, j'ai oublié au début de cette émission de vous indiquer que la semaine prochaine, l'émission aura lieu en public et en direct à la Maison de la Radio et que toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, enfin qui souhaitent venir, seraient bien aimables de s'inscrire. Le site, c'est www.maisondelaradio.fr, www.maisondelaradio.fr, et donc dimanche 14 mai, en direct et en public. Venons-en maintenant à notre second sujet, celui du Venezuela. La République bolivarienne est au centre d'une grave crise politique et économique. Caracas subit de plein fouet la chute des cours du pétrole, alors que son économie est dépendante de la rente issue de l'exploitation des plus importantes réserves mondiales de brut avant celle de l'Arabie saoudite. La nationalisation de ce secteur clé a donné au président Hugo Chavez, mort en 2013, les moyens d'éradiquer la grande pauvreté au Venezuela, d'instaurer la gratuité des soins et d'alphabétiser la population. La nouvelle conjoncture économique a entraîné une pénurie de 80% des produits de base et de nombreux médicaments, une augmentation dramatique de la mortalité infantile, l'accroissement du déficit public à 20% du PIB et une inflation qui a atteint 800% en 2017. L'effondrement de l'économie du pays et l'explosion de la criminalité ont provoqué l'émigration de millions de Vénézuéliens vers les pays voisins et vers les États-Unis. Cette situation a fragilisé la position du président Maduro, au pouvoir depuis 2013, et elle a permis à l'opposition de centre-droit d'obtenir la majorité au Parlement lors des élections de décembre 2015. Cette nouvelle majorité a lancé une procédure visant à l'organisation d'un référendum révocatoire contre le chef de l'État, initiative bloquée en octobre 2016 par le Conseil national électoral. La crise a atteint un nouveau stade le 30 mars dernier. La Cour suprême s'est octroyée les pouvoirs du Parlement et a levé l'immunité de ses membres. Cette décision a provoqué des manifestations de grande ampleur à travers tout le pays. Elles ont amené les juges suprêmes à se rétracter au bout de 48 heures. Les opposants réclament le départ du président Maduro, dont le mandat arrivera à terme en décembre 2018, la libération des opposants emprisonnés et l'organisation d'élections régionales reportées par le gouvernement de la fin 2016 à la fin du premier semestre 2017. Les manifestations se poursuivent depuis plus d'un mois. Elles ont gagné en intensité depuis que la figure de l'opposition, Enrique Capriles Radonski, a été déclarée le 7 avril inéligible pour une durée de 15 ans. Le président Maduro a proposé le 1er mai la formation d'une Assemblée nationale citoyenne pour rédiger une nouvelle constitution, projet immédiatement rejeté par ses opposants, et la tension demeure très forte alors que la répression par la police et les milices chavistes a provoqué la mort de 35 personnes depuis le début des troubles. Sur cette question, Nicole Nisotto.
Oui, le Venezuela, c'est vraiment chronique d'une tragédie annoncée. En 2001, Hugo Chavez avait réussi à faire du Venezuela le pays le plus riche de l'Amérique latine. En 2017, c'est un des pays les plus pauvres, avec un pays ravagé, une inflation de 500%, et Caracas devenue la ville la plus dangereuse du monde. Donc on a là un échec absolument sidérant. Alors, avant de revenir sur les causes proprement vénézuéliennes, je crois qu'il faut quand même replacer cela dans le contexte de l'évolution générale de l'Amérique latine, parce que toute l'Amérique latine a connu cet enthousiasme pour des gouvernements, sinon de gauche populiste, en tout cas de gauche redistributive au début, à la fin du XXe, au début du XXIe siècle, et toute l'Amérique latine aujourd'hui est dans la même situation d'échec relatif de ces politiques. Je vous rappelle rapidement, donc ça commence au Venezuela, Chavez arrive au pouvoir en 98. Il voulait ressusciter la gloire de Bolivar et créer le socialisme du 21e siècle contre la corruption, contre la collusion avec les États-Unis qui avaient de toute façon appauvri, exploité son pays pendant les décennies précédentes. Ensuite, 2002, Lula arrive au Brésil. Alors même si ça n'est pas une gauche populiste, il remettait en cause également un certain nombre de politiques de ses prédécesseurs, notamment vis-à-vis des États-Unis. 2003, l'Argentine avec Néstor Kirchner. Evo Morales en Bolivie en 2005. Michelle Bachelet, première femme au Chili en 2006, etc., etc. Tout un continent qui découvre au début des années 2000 une certaine les bienfaits d'une politique de gauche, pas forcément populiste, mais en tout cas redistributrice des richesses nationales, avec énormément de succès, je dois dire, dans la lutte contre la pauvreté, notamment au Venezuela. Hugo Chavez a été réélu 4 fois, 4 mandats de suite, encore une fois, avec un bilan social extrêmement positif. Et pour l'Amérique latine, de la même façon, un bilan économique très positif, à tel point que le Brésil est devenu le B des BRICS, c'est-à-dire les fameux pays émergents de la mondialisation, que l'Argentine également, et que l'Amérique latine était considérée comme un des pays d'avenir pour la mondialisation économique. Et puis, patate, tout cela se retourne 10 ans plus tard, à commencer par l'Argentine en novembre 2015, quand la droite de M. Macri remplace le clan Kirchner, puis en 2016 au Venezuela avec la victoire de l'opposition législative contre, vous l'avez dit, le gouvernement de M. Maduro. En Bolivie, la même chose en 2016. Madame Dilma Rousseff au Brésil est déchue. Et donc on a tout d'un coup également dans l'ensemble des pays de l'Amérique latine la fin d'un rêve. Et donc la question est pourquoi ? Je crois qu'il y a 3 raisons. La première, c'est effectivement la chute des cours des matières premières, des économies de rente extrêmement dépendantes vis-à-vis des cours, notamment du pétrole, bien s'effondrent quand ces cours s'effondrent. Deuxièmement, l'incapacité des gouvernements de modifier cette économie de rente en économie d'investissement local qui permet d'être un peu moins dépendant des matières premières. Et troisièmement, la corruption généralisée dans l'ensemble de ces régimes. Et donc, au Venezuela, on a un peu la caricature. Ça a été le premier pays à lancer cette initiative populiste. C'est le premier pays qui s'effondre dans cet échec. Vous avez un double échec au Venezuela, l'échec économique, bien sûr. Encore une fois, le Chavez n'a pas, et son successeur, M. Maduro, ont utilisé la rente pétrolière sans pouvoir aller au-delà. Et deuxièmement, un échec idéologique, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que croire que l'État socialiste est plus efficace que le simple libéralisme économique pour redistribuer la richesse, finalement, ne s'est pas produit dans l'ensemble de l'Amérique latine.
Michaela Wiegel.
Oui, alors tout d'abord, j'avoue que j'ai un peu du mal avec cette formulation, Nicole, que vous avez utilisée, que Hugo Chavez avait réussi de faire du Venezuela le pays le plus riche de l'Amérique latine. Je pense malheureusement, c'était pas Hugo Chavez, c'était le cours du prix du pétrole qui était extrêmement favorable, et donc ça pouvait effectivement faire croire dans un premier temps que cette révolution bolivarienne inaugurait une nouvelle époque qui a été donc nommée socialisme du 21e siècle et qui a trouvé un grand écho aussi en Europe. Alors, je pense que malheureusement, c'est quand même, pardon de revenir encore une fois à un autre modèle socialiste qui a échoué, donc la RDA, c'était déjà en germe dès les départs de l'accession au pouvoir de Hugo Chavez. Dès les départs, il a pas su ni diversifié l'économie. Pire encore, il a détruit le peu d'industries existantes. C'est-à-dire, non seulement il a complètement rendu dépendant tout le pays à la rente pétrolière, mais il a aussi laissé aucune chance, et c'est ça qui pèse maintenant sur ce régime qui est devenu un régime dictatorial, il faut le dire, hein, de son successeur Maduro. En fait, aujourd'hui, le peu des moyens entreprises qu'il y avait, ils ont tous été soit nationalité ou nationalisés, où ils étaient obligés de fermer. Et même les grands groupes américains, il y avait cette usine de General Motors qui avait gardé malgré tout un site de production au Venezuela, ils ont arrêté et du coup encore licencié des personnes. Et on peut dire c'est en quelque sorte c'est quasiment parce que si par exemple un régime comme la RDA s'est écoulé, c'est parce qu'il n'y avait pas de rente pétrolière pour garder artificiellement en vie ce régime aussi mal géré, même si c'est une comparaison lointaine. Hein, mais je veux juste dire que les structures, la gestion d'une économie pas adaptée aux besoins de la population. Et donc, je pense malheureusement aussi les succès dans la lutte contre la pauvreté... et même l'alphabétisation, enfin tout ce qui fait la santé, tout ça était reposé uniquement sur cette rente pétrolière. Et donc, du coup, on ne peut pas véritablement parler d'un succès durable.
Marc-Olivier Padis.
Je pense que je suis d'abord frappé, moi, par le courage de la population vénézuélienne qui aujourd'hui manifeste contre le pouvoir au risque de la violence, puisque, comme vous l'avez dit, Philippe, il y a eu 35 morts depuis le début des manifestations, que les manifestations vont se poursuivre, que la répression est très très forte. Elle n'est pas d'ailleurs seulement le fait de l'armée légale, mais aussi de forces paramilitaires qui sont favorisées par le gouvernement, donc dans une ambiance d'insécurité général extrêmement difficile. Et donc le fait qu'ils cette population s'est mobilisée en particulier parce que disons les règles de la démocratie ont été bafouées par Maduro, qui a une opposition qui a gagné le Parlement en décembre 2015 et aussi qui cherche à utiliser la Cour suprême pour modifier les règles du jeu, ce que les gens bien sûr n'accepte pas. Et puis cette population fait preuve de courage aussi parce qu'elle est confrontée depuis 2013 en fait à un système de rationnement. L'eau, l'électricité sont rationnées tous les jours, la fonction publique ne travaille plus que deux jours par semaine pour faire des économies, les biens de première nécessité, notamment les médicaments, ne sont plus accessibles parce qu'ils doivent venir de l'étranger, et beaucoup de biens de première nécessité. Le marché noir, c'est énormément développé parce qu'avec une inflation à 800%, les salaires ne valent plus rien, donc il faut passer par le marché noir. Ça veut dire que ça développe la corruption et puis la violence urbaine, comme l'a rappelé Nicole, puisque en taux d'homicide volontaire, le Venezuela tient le deuxième rang mondial aujourd'hui. Alors, Nicole a posé quand même la question cruciale, c'est-à-dire pourquoi ça a complètement raté, puisqu'il y avait ce projet, malgré tout, qui était de sortir les plus pauvres de leur situation, etc. Je pense qu'il y a trois points qui expliquent cet échec. D'abord, le fait de... le fait que l'idéologie a pris le dessus dans le chavisme, c'est-à-dire finalement le manque de réalisme par rapport à la situation économique, la volonté de nationaliser, de supprimer les entreprises privées et puis de rejeter toute la faute sur l'impérialisme américain selon une rhétorique bien connue. Le deuxième point, ça a déjà été dit, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la rente, une expression qui est assez surprenante. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce pays qui regorge de matières premières serait maudit? Et en fait, comme l'a dit d'ailleurs déjà Michaela, c'est parce que on parle de malédiction de la rente parce que la rente rend paresseux. C'est-à-dire que le régime peut se passer de la société et donc sa seule stratégie vis-à-vis de la société, c'est une stratégie de clientélisme. Et donc, il n'y a pas de volonté de favoriser l'initiative, l'économie, la diversification, etc. Et puis le troisième point de cet échec, c'est le populisme. C'est-à-dire le populisme dans un sens que j'utilise ici, dans un sens précis, c'est-à-dire de considérer que seul le régime a la légitimité parce que le régime représente à lui seul la totalité du peuple. Et par conséquent, l'opposition n'est simplement... c'est pas une opposition, c'est pas un adversaire politique, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. On le voit très bien dans la stratégie de Maduro, le fait de dénier toute légitimité à l'opposition. À partir de là, effectivement, c'est le blocage politique et l'impossibilité d'avancer dans ce pays.
François Bujon de l'Étang.
Oui, il y a quelque chose de tragique dans ce blocage politique, parce qu'il est complet. Vous avez d'un côté M. Maduro qui a suspendu pratiquement toutes les libertés publiques et le jeu normal des institutions. Il ne reconnaît pas le résultat des élections législatives parce qu'elles lui sont défavorables. Il a aboli la séparation des pouvoirs parce qu'il a demandé à la Cour suprême de prendre les pouvoirs de l'Assemblée, d'ailleurs pour devoir reculer quelques jours plus tard. Et que le pays, en effet, comme là c'est Nicole qui a employé le mot de dictature, c'est vrai, est en train de devenir une dictature parce que M. Maduro se cramponne au pouvoir en s'appuyant sur une armée qui a été choyée délibérément par Chavez et par son successeur et qui par conséquent est aux ordres. Donc il y a un blocage effectivement complet. Nous avons des manifestations dans la rue tous les jours, nous avons des morts tous les jours et en plus de tout cela, nous avons une situation de pénurie complète de produits alimentaires, de médicaments, les hôpitaux ne fonctionnent plus, plus rien ne marche dans ce pays. C'est un pays qui est en état de désastre absolu. Comment tout cela va-t-il se terminer? Je ne sais pas, soit par une guerre civile, un affrontement, il faut espérer que non, soit parce que on réussira finalement, peut-être sur la pression de la communauté internationale, et notamment de la communauté internationale latino-américaine, c'est-à-dire de l'OEA, du Mercosur, de je ne sais qui, à promouvoir une formule d'union nationale qui évitera le pire. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais la situation est tragique et elle est dans une impasse complète. Alors, il y a quelque chose de pathétique devant l'échec aussi flagrant, dans un tel désastre, des populismes en Amérique latine. Je veux dire, je parle bien des populismes ici. Le Brésil, auquel vous avez fait allusion, Nicole, tout à l'heure, est un cas un peu à part, parce que c'est différent. Mais je pense au péronisme, par exemple, et à l'Argentine. L'Argentine et le Venezuela, voilà deux pays bénis des dieux. L'un, le Venezuela, a les plus grandes réserves pétrolières du monde, plus importante depuis la réévaluation que celle de l'Arabie Saoudite. Et voilà dans quel état il est aujourd'hui. Pas seulement, Marc-Olivier, à cause de la malédiction de la rente, mais parce que les méthodes de redistribution de Chavez étaient folles. Il a dilapidé, en 10 ans de temps, 150 milliards de dollars de rente pétrolière, sans jamais réinvestir quoi que ce soit dans l'industrie pétrolière. Le Venezuela ne produit plus aujourd'hui que 2 millions de barils jour. Il est au niveau de l'Irak, un peu en dessous de l'Irak, qui est un pays notoirement sinistré. Il est obligé d'importer des produits raffinés. C'est quand même invraisemblable d'en être arrivé là. Il n'a jamais réinvesti. Il a nationalisé à tour de bras, il a étouffé l'initiative privée, il a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire et il n'a jamais constitué par exemple un fonds souverain comme l'ont fait d'autres pays pétroliers qui ont su réutiliser la rente pour faire des investissements pour le plus grand bien du pays. Donc c'est vraiment un cas de management désastreux avec une hypertrophie du secteur public, des nationalisations à tout va... Enfin, un cas d'école, littéralement, mais qui mène au tragique. Et dans le cas de l'Argentine, c'est tout à fait différent, mais le péronisme, au fond, qui a eu plusieurs vies dans ce pays, a gâché la perspective d'un pays, littéralement, mais on trouve tout en Argentine.
Une agriculture. C'était la cinquième économie.
Ah oui, et avant la guerre, en 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le revenu par tête en Argentine était supérieur à celui de l'Allemagne ou de la France, n'est-ce pas? Et nous apprenions, dans les années 60 encore, que c'était un des pays d'avenir. Pas du tout. L'Argentine est un désastre. Elle a fait faillite en 2001 et aujourd'hui, en 2017, 16 ans plus tard, elle n'est toujours pas pleinement réintégrés dans la communauté financière internationale. Voilà vraiment deux cas que je considère comme absolument pathétiques et qui doivent donner à réfléchir, parce que si des pays comme ceux-là ont pu être ruinés par le populisme, que dirait-on de pays qui ne sont pas producteurs de pétrole ou qui ne bénéficient pas, comme l'Argentine, des mêmes dons dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine minier? On trouve tout en Argentine dès qu'on creuse quelque part.
Oui, et dans les deux cas, il n'y a aucune catastrophe externe,
aucune.
Ni guerre, ni calamité naturelle.
Aucune. Dans le cas du Venezuela, on peut dire qu'il y a eu le retournement des prix des matières premières et le retournement des prix du pétrole, parce que ce que Chavez pouvait faire avec le pétrole à 110 dollars le baril, Maduro ne peut plus avec du pétrole à 50 dollars, évidemment. Mais il n'y a pas que cela, comme on ne peut pas blâmer l'impérialisme américain pour tout.
Michaela Wiegel.
Oui, et la légitime colère contre la corruption qui prédominait dans le Venezuela pré-chavezienne a été remplacée malheureusement par une nouvelle corruption. Donc c'est malheureusement aussi un peu le leurre de ce socialisme populiste, en tous les cas à l'époque populaire, d'avoir donné l'impression en terminant avec, c'est un mot qui est devenu un peu fétiche, avec cette oligarchie et les classes qui profitaient du système, en fait, a été remplacée par une nouvelle oligarchie, malheureusement.
Marc-Olivier Padis.
Je réagissais juste sur l'absence de choc externe pour dire qu'il y a quand même une sécheresse très importante au Venezuela, ou des périodes de sécheresse qui n'arrangent évidemment pas la situation, qui font aussi de la pollution dans les grandes villes.
Nicole Nisotto.
Oui, je suis complètement d'accord sur l'échec des populismes en Amérique latine. Je n'ai absolument pas l'once d'un pro-chavisme pour ce qui me concerne. Mais quand même, je ne voudrais pas laisser croire que l'échec du populisme en Amérique latine, et en particulier au Venezuela ou en Argentine, ne laisse comme alternative que soit la guerre civile, soit le retour à des régimes autoritaires, militaires, dictatoriaux, comme toute l'Amérique latine l'a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier que la question de la pauvreté, qui n'est pas seulement une question pour l'Amérique latine d'ailleurs, que la question de la répartition des richesses par l'État, par les structures étatiques, ça reste une question essentielle pour le développement de l'Amérique latine et qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, avant laquelle je rappelle que notre émission sera la semaine prochaine en direct et en public à la Maison de la Radio, et que tous celles et ceux qui souhaitent y assister peuvent s'inscrire sur www.maisondelaradio.fr. Je voudrais juste, pour ouvrir cette séquence des brèves, rappeler que persécuter des personnes en raison de ce qu'ils sont est un crime que nous avons classé parmi les pires depuis le procès de Nuremberg, et que depuis, malheureusement, nous ne cessons de voir ce crime proliférer. Les derniers en date ont lieu en Tchétchénie, où, autant qu'on peut savoir, les traitements qui sont réservés aux homosexuels sont d'une cruauté qui s'étend d'ailleurs à leur famille. On tue, on torture, on humilie, on fait tuer par les familles, du moins en autant qu'on puisse savoir, puisqu'évidemment il est extrêmement difficile de pouvoir vérifier les informations que nous transmettent des organisations non gouvernementales. Elles doivent cependant l'avoir été suffisamment pour que Madame Merkel ait eu le courage de dire, et la fermeté de dire à Monsieur Poutine, que cette situation était abominable et qu'on espérait bien qu'il jouerait de son influence sur le gouvernement tchétchène, qui est entièrement à sa main. Pour le moment, le gouvernement russe a répondu qu'il n'avait pas d'informations qui allaient dans le même sens que Madame Merkel. Mais enfin, si Madame Merkel l'a fait, et quelques-uns des ministres des Affaires étrangères européens, on peut espérer que sur cette affaire, comme sur toutes celles qui concernent ces crimes abominables qui consistent à persécuter les gens en raison de ce qu'ils sont, nous qui jouissons de la liberté aurons des gouvernements qui se manifesteront avec un peu plus de constance, pas seulement de fermeté, mais de constance dans la fermeté que jusqu'à présent. Marc-Olivier Padis.
J'ai lu cette semaine un essai de Bruno Tertrais, qui est un spécialiste des relations internationales, « La revanche de l'histoire » chez Odile Jacob. C'est un livre qui se place un peu sous la double inspiration de deux autres auteurs, Thérèse Delpech et Pierre Asner, qui ont toujours mis en valeur la place des passions dans les relations internationales et qui se demandent pourquoi les passions ancrées dans l'histoire sont devenues un ressort essentiel des rapports de force internationaux. Effectivement, on le voit dans la manière dont les puissances impériales comme la Russie, l'Iran, la Turquie se réfèrent de plus en plus à leur passé, mythifient leurs origines et ils se demandent donc dans cet essai pourquoi cet usage de l'histoire est devenu si répandu. Il prend l'exemple de toutes les discussions en Asie, au Moyen-Orient bien sûr, le conflit Israël-Palestine, mais même le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ou toute la rhétorique de Daesh qui fait référence aussi à de l'histoire de longue durée, la Russie, les Balkans et même en Europe, des pays comme la Hongrie par exemple ne cessent de se référer à une légitimité du pouvoir qui viendrait de l'histoire longue. Et donc c'est un essai tout à fait passionnant qui se demande aussi dans son dernier chapitre comment trouver une meilleure politique de la juste mémoire.
Michael Avigel.
Alors moi je vous recommande le livre écrit par le grand connaisseur des relations franco-allemandes Alfred Grosser qui s'intitule Le Mensch et qui est pour l'instant que disponible en version allemande, mais je pense une version française va suivre et qui est une grande interrogation sur ce qui fait l'identité de nous et quelle est l'éthique aussi des identités. Donc un livre, je pense, très enrichissant, où il parle beaucoup de lui aussi. Voilà.
Merci. François Bujon de l'Étang.
Dans les périodes anxiogènes, quand tout le monde s'inquiète ou quand on ne peut se distraire qu'en parlant de la tragédie du Venezuela ou des problèmes de la Corée du Nord, il faut se réfugier dans la littérature. Et pour tous ceux qui ont un besoin d'évasion ou qui éprouvent la tentation de Venise, je recommande Henri de Régnier, que l'on commence à sortir lentement du purgatoire littéraire dans lequel il se trouve depuis des décennies et donc on commence à réimprimer les œuvres. Les éditions de L'Éveilleur réimprime les histoires incertaines d'Henri de Régnier. Trois nouvelles tout à fait remarquables, merveilleusement écrites avec cette écriture très distinguée qui est la sienne sans jamais être précieuse, pleine de mélancolie et pleine du charme discret de la désuétude, notamment une des nouvelles qui s'appelle L'Entrevue, qui se passe dans le Venise que Régnier connaissait si bien et qu'avec Paul Morand, il est peut-être l'écrivain qu'il a le mieux décrite.
Nicole Desoto.
Mais moi, je vais rester dans nos sujets d'aujourd'hui puisque je voudrais recommander un livre sur la Corée du Nord qui s'appelle « La Corée du Nord, un état guérilla en mutation ». C'est une somme absolument essentielle par Philippe Ponce, paru aux éditions Gallimard en 2016. Philippe Ponce est un journaliste du Monde qui a passé des années, peut-être même des décennies en Asie et au Japon. Il est allé très souvent en Corée du Nord et il a écrit cet ouvrage qui est véritablement sur le plan historique, économique, culturel, une somme fondamentale pour comprendre la Corée du Nord, pour essayer de percer l'évolution possible de la Corée du Nord, donc chez Gallimard en 2016.
Je vous remercie, vous avez rendez-vous avec Alain Krugère qui poursuit ses explorations inattendues et enrichissantes avec Marie-Luce Nadal qui est plasticienne et vigneronne et qui s'interroge sur les liens entre le travail de la vigne et l'expérimentation artistique. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Cédric Chatelus. Vous êtes priés de vous présenter la semaine prochaine à la Maison de la Radio, si vous le souhaitez, ou de l'autre côté de ce micro pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.